alone.
Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciat, et bienvenue dans votre émission Page à Page. Nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 9h30 à 10h sur les ondes de Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, je reçois Hélène Dufaux. Bonjour Hélène.
Bonjour Claire Ambille.
Qui vient nous présenter donc son dernier livre qui s'intitule Amarana aux éditions TME. Un roman qui m'a personnellement beaucoup plu, qui mélange à la fois l'histoire et puis le suspense, une intrigue. Mais on en parle dans quelques instants. Instant avec elle. Et en attendant, je vous donne quelques petites infos comme à l'accoutumée. Pour vous rappeler que l'atelier de lecture de poésie aura lieu ce samedi 23 janvier de 10h30 à 12h30 à la médiathèque José Cabanis, au troisième étage, petit auditorium. L'atelier est gratuit, mais il faut réserver pour une question de place. Donc je vous donne le numéro de téléphone 05 62 27 45 69. Et je vous rappelle que cet atelier mensuel est animé par Blandine Poney et qu'il vous propose de découvrir la poésie contemporaine à travers un choix de textes, de travailler ensemble le dire à haute voix, comment adresser le texte, trouver sa voix, etc. Donc n'hésitez pas à aller à cet atelier de poésie ce samedi matin. Et puis vous rappelez également que le week-end prochain, le 8e festival du livre jeunesse ouvrira ses portes à Saint-Aurens le 29, 30 et 31 janvier et que le thème de cette année, eh bien, c'est voyage autour des contes. Et d'ailleurs, Hélène y sera, mais pour les scolaires, hein, je précise bien, hein, c'est, le vendredi, c'est uniquement les scolaires hein, qui sont conviés. Et puis après, samedi, dimanche, c'est ouvert au public. Mais rassurez-vous, vous saurez plus de choses et tout le programme si vous restez fidèle à Radio Occitanie et à Page jeudi prochain à 9h30, puisque je recevrai Flora Blanco qui viendra nous parler eh bien, de ce festival. De ce 8e festival de livres jeunesse de Saint-Aurens.
Page à page, Claire Ambille.
Voilà, j'avais pas beaucoup d'infos et ça tombe bien parce qu'il y a beaucoup de choses à dire avec Hélène et son livre Amarana et puis sur ce qu'elle fait, etc. Alors, tout d'abord, Hélène, donc originaire des Landes, hein, née au Mont-de-Marsan.
Oui, la préfecture des Landes qui était vraiment au cœur du département.
Et d'ailleurs, qui se retrouve, on va le voir dans ce livre, hein, c'est Amarana, on peut dire que c'est un hommage à la région.
Oui, c'est un hommage à mes terres natales, tout simplement.
Tout à fait, tout à fait.
Et moi, je suis landaise d'une famille qui n'est pas des Landes.
Donc, d'accord, qui est venue s'installer dans les Landes. Oui. Et donc, voilà, c'est une région qui t'a toujours fascinée, quoi.
Oui, ce que j'aime particulièrement dans les Landes, c'est que c'est vert en permanence. Et dans d'autres départements très boisés, l'hiver est gris.
Oui, c'est vrai.
Parce que les arbres perdent leurs feuilles et le paysage change véritablement. Dans les Landes, il y a de la verdure en permanence du fait des pins qui sont des résineux et qui ne tombent pas de feuilles. Parce qu'ils n'ont pas de feuilles, de toute façon.
De toute façon. Et on va voir que les pins, eh bien, ils n'ont pas toujours été là. Hein. On l'apprend dans ce livre. Hein.
Non.
Voilà. Enfin, en tout cas, pour moi, qui ne connais pas beaucoup la région landaise, j'ai appris beaucoup de choses dans ce livre Amarana. Alors, bon, donc originaire des Landes, mais bon, a vécu à Paris. Hein.
Oui.
Voilà, de longues années. Et puis, toulousaine d'adoption, quand même, depuis une quinzaine d'années.
Hein. Oui. Je suis arrivée en été 94 à Toulouse.
Voilà. Et alors, au niveau donc activité, l'écriture, la lecture ont toujours été présentes dans ta vie.
Oui. Alors, je m'en suis rendu compte tard, en fait, que l'écriture était là et était un besoin d'expression. En fait, j'ai réalisé ça quand j'ai arrêté d'écrire.
Ah d'accord, oui, c'est rigolo.
Bah oui, voilà, c'est-à-dire que je pratiquais l'écriture.
Le manque a fait que...
Le manque m'a permis de toucher du doigt que c'était essentiel finalement à mon
vital,
équilibre.
Vital, c'était nécessaire.
Oui, absolument.
Et alors donc justement l'écriture et puis donc la lecture aussi, parce que l'un ne va pas sans l'autre, je pense qu'il y a une certaine...
Oui,
on dit
qu'il
y a certains liens entre
les
deux.
Il y a des adages comme ça qui disent qu'un écrivain doit lire, etc. Je ne sais pas s'il faut lire, mais en tout cas, moi, La lecture est quelque chose dont j'ai besoin de différentes manières. C'est-à-dire que souvent, quand je suis en phase d'écriture, je vais aller plus spontanément vers des magazines, des formats courts, qui ne seraient pas de la fiction. Je dis ça, et puis j'ai 3 ou 4 romans ouverts sur ma table de chevet en parallèle, et j'écris en ce moment. Bon.
Oui.
Alors, je ne sais pas. Non, je crois que c'est une autre forme de narration. Je me rends compte, en extrapolant, que quand j'écris, j'ai besoin d'images. En fait,
D'accord.
Donc, je délaisse un peu le livre pour aller au cinéma. Et je vais beaucoup au cinéma quand j'écris. Je ne sais pas pourquoi. Je n'écris pas des scénarios de films, hein, mais j'ai vraiment... Peut-être c'est un
peut-être
besoin
pour
de changer...
Peut-être un peu la tête aussi, et puis de voir des images plutôt que des lignes et des mots et des
peut-être
phrases.
Peut-être c'est un autre rapport à la narration aussi, tout simplement. Ouais. Ouais.
Alors, à Paris, tu as travaillé dans une maison d'édition Gallimard. Hein,
oui.
Ce n'est pas rien. C'est une prestigieuse maison d'édition. Oui. Et très ancienne aussi.
Oui, c'est un des cadeaux de la vie, ça.
Par hasard. Hein,
oui, je ne me destinais pas à l'édition. Et puis, les hasards de la vie et des rencontres ont fait que, voilà, la proposition m'a été faite de postuler à un poste de secrétariat d'abord. Donc, j'ai commencé par être l'assistante du PDG. Et puis ensuite, j'ai été secrétaire d'édition auprès de 2 directeurs littéraires. Voilà, puis ça a été une école de vie formidable.
Ah oui,
vraiment
c'est
formidable.
C'est sûr qu'on apprend certainement beaucoup de choses. Et puis quand donc après, donc dans la continuité, eh bien ça a permis à ce que tu fasses, eh bien correctrice par exemple, correctrice actuellement au Griffon Bleu. Hein. D'ailleurs, nous saluons Didier Debord à Haute-Rive là-bas. Et puis aussi chez Milan.
Oui, au coup par coup, quand des choses se proposent.
Et puis une nouvelle maison d'édition toulousaine également.
Oui, ça fait 2 ans maintenant que je travaille pour les éditions Gelbart, qui est une édition que Jean-Jacques Gelbart photographie. À monter.
Ah, d'accord.
Et depuis 2 ans, ils y publient des beaux livres autour des sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc il y a eu une première édition sur les sites français, une édition cette année sur les sites marocains, la prochaine en préparation sur les sites suisses. Et il fait un boulot magnifique en photographie.
Ah, c'est Sans Monuments, c'est ça?
Non,
ça c'est autre chose.
Sans Monuments, ça c'est une publication des éditions du patrimoine, des monuments nationaux à Paris.
Okay,
voilà, mais là, c'est vraiment une fabrication locale. Avec des photos de Jean-Jacques Gelbart et des textes d'écrivains ou de personnes qui...
Et donc, et la correctrice, c'est Hélène Dufour.
Et voilà, je suis correctrice et relectrice de tout ça, oui.
Et puis donc, tu interviens aussi donc, dans des écoles, des bibliothèques, des hôpitaux, des centres de formation pour parler justement de l'écriture.
Oui, pour parler de l'écriture, pour animer des ateliers d'écriture
aussi,
fonction des envies des personnes que je rencontre ou qui me sollicitent. Voilà, moi j'ai vraiment beaucoup de plaisir à raconter ce que c'est que la vie d'un écrivain, parce que c'est parfois très mystérieux, mais je crois que les écrivains sont des êtres comme les autres. Voilà.
J'ai surtout plaisir à
désacraliser et puis à raconter qu'un écrivain est un être de chair et de
passion.
Et d'eau aussi, de chair et d'eau, oui, et de passion, oui, probablement.
Ah oui, sûrement.
Mais que cette part créative que j'ai pour ma part besoin d'exprimer ne me fait pas si différente d'un autre. Voilà, c'est juste que j'ai besoin d'exprimer
ma
créativité par ce vecteur qu'est l'écriture.
Et puis que voilà, le résultat est bien. Parce que voilà.
Je suis ravie.
Oui, moi ça me plaît beaucoup. Alors, tu parlais d'ateliers donc, d'écriture. Donc justement, il y en a un mensuel que j'annonce régulièrement ici à page sur Radio Occitanie.
Merci,
c'est l'atelier
c'est un bon relais, ça.
Du local à Yamé, hein, donc une fois par mois. Il y a aussi, tu organises aussi et tu animes un atelier voyageur, un atelier d'écriture voyageur biannuel, donc en mai et en août hein, en général.
Avril. Alors c'est, je crois de mémoire, 23-28 avril à Berlin.
À Berlin.
J'emmène un groupe
pour
à Berlin pour cette année. Et 25 août. Claire est tout à fait au courant. Un groupe, donc j'emmène un groupe écrire à Dublin, écrire et faire du tourisme. Hein. C'est le double plaisir de cet atelier voyageur.
En Irlande.
C'est vraiment d'accompagner des personnes à mêler les plaisirs du tourisme et de l'écriture à l'étranger.
Tout à fait.
On écrit en français, bien sûr.
Heureusement. Et puis, un atelier hebdomadaire au Centre Bellegarde.
Oui,
tous les jeudis soirs.
Il y a un atelier de 20h à 22h, qui est un atelier ouvert à tous, avec des entrées permanentes au cours de l'année, où on va travailler l'écriture de fiction, mise en place d'un personnage, développement de l'univers d'un personnage. Au coup par coup, semaine après semaine, on travaille avec des propositions d'écriture, des photos, c'est varié.
Et puis donc, tout récemment, rédactrice en chef du magazine Friture.
Oui, c'est ma nouvelle mission en 2010. Friture est un magazine que je connais depuis le tout début, avec lequel pour lequel je travaille depuis 2 ans, je crois maintenant, ou 3 ans, je ne sais plus. Je relis les magazines en bénévole. Je fais partie du conseil d'administration également. Et puis, j'ai mené, là, pour le numéro 10 qui vient de sortir, j'ai assuré la coordination d'un dossier sur la santé, des alternatives pour la santé, la prévention pour la santé. Et puis, c'est un numéro qui fonctionne bien, qui a de bons retours. Et du coup, en conseil d'administration, on m'a proposé d'assumer la rédaction en chef des prochains numéros, que j'ai accepté.
Oui, donc c'est fort, c'est plein de choses. Différentes. Oui. Et alors, tu disais justement, la musique est déclencheur ou accompagnement de l'écriture. Et justement, tu as prêté ta voix et tu as donné aussi tes mots et même la musique pour le groupe Lateigne, un groupe toulousain composé de plusieurs personnes, dont aussi Manu Cos et Emmanuel Urien, que les auditeurs connaissent bien ici à Page à Page. Et d'ailleurs, on écoutera une chanson donc composée par toi et avec musique et chantée également.
Oui.
En fin d'émission, c'est Rien de Rien, donc dans le groupe Lateigne.
Voilà. Et Lateigne, j'ai quitté Lateigne il y a quelques mois, ça doit faire un an peut-être maintenant, parce que j'ai une vie assez occupée.
On voit que tu fais beaucoup de choses. Il faut quand même se reposer. Les journées ne font que 24 heures, comme on dit.
Hein. Et comme je ne suis pas insomniaque, j'ai besoin de dormir.
Alors, la biblio d'Hélène Dufaux, ça a commencé par Trauma, un roman, en 2003, édité chez Gallimard, justement, et qui a même reçu le prix du livre dans tous ses états.
Oui.
Et qui a été traduit en allemand et en roumain.
Oui. C'est des beaux moments, ça, la traduction. Et c'est très intriguant de recevoir son livre dans une autre langue. Voilà, quelque chose qui échappe complètement, qui est un peu déstabilisant.
On le reconnaît plus.
Le titre n'est pas le même, les mots sont très étranges dedans. Voilà.
Tout à fait. Alors ensuite, il y a eu Combat, un autre roman en 2004, de nouveau chez Gallimard.
Oui.
Voilà. Ensuite, La Madeleine de Nantes, cette année. Cette année, juste 2009, l'année précédente. Alors, c'est les éditions La Louve. Et puis, de nombreuses nouvelles dans des revues, bien sûr.
Des ouvrages collectifs aussi.
Oui, aussi. Et puis, donc, nous y venons, Amarana, aux éditions TME en 2009. Donc, les éditions TME, les auditeurs de Page à Page connaissent aussi, puisque j'avais reçu Sandrine Banessi pour parler de sa maison d'édition. Oui. Et la collection Noir d'Histoire n'existait pas encore. Elle en avait parlé en disant qu'elle avait l'intention de créer cette collection. Donc, justement, Amarana fait partie de la collection Noir d'Histoire, et comme son nom l'indique très bien, c'est un mélange, donc c'est un roman à la fois noir et historique.
Absolument. Mmh. Je trouve que c'est un très beau pari éditorial, cette collection.
Voilà. Et puis Sandrine, Noir d'Histoire, oui.
Oui.
Mélange à la fois l'histoire et puis l'intrigue.
Oui, c'est ça. Et puis je trouve ça, c'est un beau pari éditorial. Sandrine est une grande lectrice, Sandrine Banessi. Et elle aime vraiment la littérature. Elle est spécialisée, dans l'édition de patrimoine depuis une dizaine d'années.
Et puis
elle a ouvert cette collection avec un premier roman publié par Benoît Sévrac,
Les Chevelus,
qui a emporté plein de prix.
D'ailleurs, il viendra certainement à Page à Page dans quelques temps pour nous présenter son second rendez-vous au 10 avril.
Oui.
Mais ça, c'est dans une autre émission. Là, donc, cette collection Noir d'Histoire, ce sont des romans qui mènent l'enquête au cœur de l'histoire de nos régions.
Oui.
Voilà. Et c'est sûr, il faut signaler aussi, moi ça m'a bien plu aussi, que Amarana est imprimé sur papier recyclé.
Oui,
moi je tiens à le préciser.
Oui, je pense que c'est bien aussi.
C'est une très bonne initiative.
Bien sûr.
Alors, donc, c'est un roman qui se passe à la fin du 19e siècle, donc dans la région landaise, une région donc que tu connais bien. Donc, ce livre est dédié à tes parents.
Oui.
Comme tu l'as indiqué au début du livre, qui t'ont fait landaise.
Oui.
Tu es fière d'être landaise et de rendre hommage.
Je ne sais pas si c'est de la fierté, mais
c'est
un pays qui, lorsque je n'y retourne pas pendant un certain temps, c'est un pays qui me manque.
Qui manque.
Ah oui, vraiment.
J'aime ça. Les racines.
Oui.
Alors, le titre Amarana signifie le marais dans la langue corse.
Mmh.
Alors là, c'est là qu'on apprend que c'est l'empereur en visite qui donna ce nom au lieu. Et puis donc dans le roman, l'auberge relais postal de Solferino, où était d'ailleurs descendu l'empereur Napoléon III, porte ce nom également.
Oui.
Amarana, l'auberge
Amarana.
Alors
ça, c'est la part de fiction de l'ouvrage historique. Voilà, c'est-à-dire que c'est très très excitant et très intéressant de travailler l'histoire pour en raconter une histoire. Donc l'histoire avec un grand H pour s'en inspirer et travailler un roman, une fiction.
Et puis raconter une histoire à côté, à l'intérieur même.
Il y a énormément de faits historiques réels.
Oui, réels. Oui.
Parce que l'histoire est réelle, c'est toujours pareil. Mais voilà, j'ai en tout cas travaillé mon sujet avec une thèse, des documents d'époque, une étude sociologique de 1867. J'ai trouvé comme ça des documents très très intéressants qui existent encore. Et qui m'ont servi vraiment de documents d'études à partir desquels j'ai pu nourrir des personnages, un moment particulier de ce département landais.
Oui, l'époque de ce roman, comme on disait, c'est à la fin du 19e siècle, quand les marais des Landes ont été asséchés petit à petit pour faire place justement à des nouvelles immenses forêts de pins.
Absolument.
Alors, tous ceux qui connaissent les Landes avec les pins et tout, mais ils n'ont pas toujours été là. Avant, c'était des marais.
Les pins ont été vraiment plantés par les hommes. Alors, il y avait de la forêt landaise avant la pinède. Il y avait une forêt composée de pins, de chênes, d'acacias, enfin voilà, il y avait un mélange de d'essence. Et en 1857, Napoléon III décrète l'assainissement des Landes de Gascogne. C'était un département extrêmement pauvre, les Landes, et insalubre, avec famine récurrente, épidémie dévastatrice. Et Napoléon III, dans sa frénésie économique, a décrété et décidé qu'il fallait tirer ce département vers le haut et l'aider à traverser, arriver à accéder au monde économique. Son idée a donc été d'assainir, en asséchant les marécages, d'implanter des pins massivement qui servaient pour la batellerie, pour les forges, pour des tas de choses, mais qui servaient aussi pour la résine, l'école, la terre ébantine qui était beaucoup utilisée à cette époque. On en importait des États-Unis et puis il y a eu la guerre de sécession. Voilà, bon.
Alors donc voilà, ça se situe dans cette période, le début de l'assèchement des marais. Et alors donc dans cette même période, donc ça c'est l'histoire, c'est le roman, c'est la fiction. Il y a des jeunes filles qui disparaissent, enfin qui sont enlevées sans que les autorités ne s'en préoccupent.
Oui.
Et alors on se demande quelle raison pousse alors le maire de Sallanches à partir précipitamment à la recherche de Mariette, qui est une jeune servante, quand celle-ci disparaîtra à son tour.
Voilà.
Donc c'est l'histoire.
Ça c'est l'histoire.
C'est le début de l'histoire dans l'histoire.
Mais il y avait véritablement une bande de brigands qui sévissaient sur
Bouère.
Les terres. Voilà. Et quand j'ai appris cette information...
Ça t'a donné l'idée du roman.
J'ai les malfrats, ceux qui vont tourmenter Alors, les brigands, en effet, kidnappaient des jeunes filles. Enfin, il se passait des choses vraiment épouvantables. Et puis, quelquefois, les familles ne s'en préoccupaient pas. Les enfants disparaissaient.
La vie était tellement difficile. Ça faisait une bouche de moins à nourrir, quelque
aussi
part.
C'est
très stratégique. Voilà. Effectivement, c'est l'époque aussi qui voulait ça.
Hein. Oui, bien sûr.
Alors, les personnages, justement, Germain, le maire de Sabre. Pourquoi j'ai dit Sallanches Alors, Germain, le maire de Sabre, sa femme Jeanne, donc qui vit douloureusement la perte de ses deux enfants qui sont morts en bas âge, emportés par la maladie. Camille, que j'aime beaucoup comme personnage, qui est palefrenier mais aussi guérisseur, qui a des dons et puis qui se passionne pour toutes les herbes et leurs bienfaits. Le vieux Léon, qui a été l'initiateur de Camille, d'ailleurs, que j'aime beaucoup aussi comme personnage, qui a donc initié Camille dans le savoir des plantes et de leurs bienfaits sur la santé.
Oui.
Et puis Mariette, donc une jeune fille qui travaille à l'auberge Amarana, justement, et qui aide Camille à mettre par écrit les noms des différentes plantes et leurs bienfaits. Donc, quelque part, à eux deux, ensemble, ils créent une sorte d'encyclopédie médicinale. À l'époque.
Oui, Mariette sait écrire et Camille, pas tout à fait.
Voilà, donc à eux deux, ils font une sorte d'encyclopédie avec lui dessine les plantes et elle écrit le nom et puis les bienfaits de chacune. Je trouve que c'est sympathique. Et puis il y a Simon. Alors oui. Simon, j'aime bien Simon aussi, dit le muet, car il a parlé fort tard.
Oui, oui, c'est un enfant qui a refusé de parler patois, puisqu'on parlait patois dans les Landes. Certains continuent aujourd'hui, mais c'est une époque où on interdit aux enfants à l'école de parler patois pour leur imposer de s'exprimer en français. Et Simon, petit, ne parle pas chez lui, il ne parle pas. Ses parents s'en inquiètent, etc. Mais voilà, il se met à s'exprimer lorsqu'il entre à l'école. Voilà. Et il comprend le patois, mais refuse de le parler.
Donc ça, c'est Simon, dit le muet. Alors lui, il est avide de lecture, il est brillant écolier, il veut étudier à Bordeaux et devenir écrivain.
Oui.
Voilà. Il vit dans les Landes, mais enfin, il a une ouverture par la lecture.
Par son frère qui est parti marin-pêcheur, qui lui rapporte comme ça des effluves de ses voyages, ça nourrit son imaginaire et oui, il a des ambitions, ce jeune homme.
Puis il y a Margot. Alors Margot, c'est la chouette qui a été adoptée par Simon. Ouais. C'est un souvenir d'enfance d'Hélène.
Oui, absolument.
Voilà, j'aime bien Margot. Et puis la mère de Simon aussi, Madeleine, qui a des liens très, très forts avec son fils,
oui.
Qui est une bonne, entre guillemets, une bonne mère, je trouve. Elle a des. J'aime beaucoup Madeleine en tant que femme et en tant que mère.
Hein, oui.
Tous les personnages sont attachants. Moi, voilà. Et donc dans ce roman, donc terre et homme sont intimement liés, bien sûr, et doivent trouver le chemin pour évoluer ensemble. Hein. C'est un aussi le thème du livre, je pense. Et puis on découvre donc tout un pan de l'histoire de la région landaise. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à le lire. Et puis servi aussi par des personnages, donc, comme on le disait, très attachants et couronnés donc par une intrigue quand même, un mystère où le suspense nous entraîne et maintenu. Jusqu'à la fin du livre. Et c'est parce que ce n'est qu'à la fin qu'on découvre donc quel lien justement unissent Germain, le maire de Sabre, et Mariette, la jeune servante disparue. Et puis suspense aussi, je trouve, pour l'histoire d'amour entre deux personnages, on ne va pas citer lesquels pour laisser le mystère, mais après c'est à notre imagination de faire, de donner une réponse à notre imaginaire.
La fin est une fin ouverte.
Voilà. Alors moi, j'ai beaucoup apprécié parce que c'est un roman très bien écrit, au style clair et très descriptif, mais les descriptions ne sont pas trop lourdes.
D'accord,
j'ai beaucoup aimé le côté descriptif, explicatif de l'histoire avec le grand H, justement. Et puis aussi, c'est coloré de poésie, je trouve aussi. Dans ce livre, il y a de la poésie.
Oui, mais je crois que j'aime tellement ce pays j'en parle avec tout l'amour que je porte à cette lande et puis à ces paysages changeants, véritablement changeants, que j'ai observé des heures durant quand j'étais landaise. Le moment où le brouillard décide de se lever et où le soleil apparaît, c'est quelque chose qui n'a de cesse de me fasciner, véritablement, la découverte de l'océan.
Justement, oui, c'est une phrase que j'ai beaucoup aimée. Spectacle si particulier du soleil qui vient à la rencontre du brouillard et se prend à le caresser juste avant de le congédier. Voilà, ça c'est une phrase qui m'a marquée parce que j'allais pleine de poésie. Puis il y en a une autre aussi que j'aime beaucoup, c'est « Elle pleura pour faire à nouveau de la place à la vie » et puis un peu plus loin « jusqu'à ce qu'elle déborde de toutes parts ».
Oui.
J'aime bien ce côté.
Mariette qui a des moments de sanglots et qui a besoin de pleurer pour se débarrasser de poids.
Donc voilà, c'est un très bon roman, à la fois donc historique et puis mystérieux, et puis donc avec de la fiction, avec des personnages attachants et au style. Moi, j'ai vraiment bien aimé le style. Et puis donc à découvrir d'urgence pour les auditeurs. Il est dans toutes les librairies de France et de Navarre et des Landes aussi.
Oui, et des Landes aussi.
Et des Landes aussi. Alors la question pour terminer cette émission, Hélène, quel projet ? J'imagine beaucoup, quelques-uns, plusieurs.
Oui. Alors,
plusieurs projets d'écriture.
J'ai toujours des choses en chantier, entre guillemets. Depuis plusieurs années maintenant, j'ai dans mes tiroirs, mais voilà, c'est des choses que j'alimente au fil du temps, un recueil de prose poétique, des textes courts, rimés ou pas, que j'écris au coup par coup, vraiment quand j'ai quelque chose à ajouter dans ce recueil. Également un recueil de textes érotiques. Voilà, parce que j'aime ce genre et j'ai envie d'y apporter ma pierre, tout simplement, une contribution.
Voilà, ta vision aussi, absolument. Ton ressenti.
Et puis j'ai commencé récemment un roman pour les adolescents.
Pour les adolescents.
Oui. J'ai une cinquantaine de pages pour l'instant, je me régale.
Littérature jeunesse.
Littérature jeunesse qui me tente depuis longtemps.
Et puis donc un autre roman dans la collection Noir d'Histoire chez TME.
Oui, pour 2011, je crois que nous sommes dit ça, Sandrine et moi, un projet de roman qui se déroulera en Haute-Savoie.
La région de la famille de ta maman, je crois.
Oui, c'est ça. Une autre part de mon histoire familiale.
D'accord, donc la Haute-Savoie, et donc avec là aussi une intrigue qui sera...
Oui, et le milieu professionnel de la tannerie, c'est un milieu qui me fascine.
Ah, la tannerie.
Oui, j'ai envie d'expérimenter, de creuser, de... Voilà.
Donc beaucoup de recherches, j'imagine, à faire dans ce sens, pour découvrir ce futur.
Voilà. Et beaucoup d'odeurs à décrire, de choses un peu étranges.
Et oui, la tannerie, oui, le cuir qui est travaillé, etc. Oui, la peau, oui, tout à fait. Mm. Donc plein de projets,
oui.
Donc on se reverra, forcément.
Avec grand plaisir.
Et bien, en tout cas, moi, ça a été un grand plaisir aussi. Et puis, donc, je rappelle le livre, donc « Amarana ». Édition TME collection Noire d'Histoire, Hélène Dufaux. Et puis on va se quitter donc en écoutant donc la chanson écrite par Hélène qui s'appelle Rien de rien et qu'elle chante dans le groupe Lateigne. Elle a fait elle aussi la musique.
Oui.
Donc on va on se quitte et moi je vous retrouve jeudi prochain. Passez une bonne semaine et puis merci Hélène.
Merci Claire.
À d'iciat.
N'attends rien, crois-moi, d'autre que tes mains sur moi, mes yeux au creux des tiens, ma peau contre tes seins. Non, rien de rien, non, rien de rien, non, rien de rien, je ne veux rien, ça c'est plus fort que moi, j'ai besoin de l'émoi qui attise la vie. Et à vivre l'envie, je ne veux m'en passer, je n'en ai pas assez. J'aime quand ça fait du bien de croiser un chemin. Non, rien de rien, non, rien de rien, non, rien de rien, je ne veux rien. Ça peut mener si loin qu'un bout d'amour y point. Mais si c'est mieux pour toi, je ne le dirai pas. Je ne veux rien de toi et ne crains rien de moi. Tu peux compter sur moi tout le temps qu'il faudra. Et non, rien de rien, non, rien de rien, non, rien de rien, je ne veux rien. Attention, les quelques rares fois où nous nous croiserons, et je ne veux rien de toi et ne crains rien de moi. Tu peux compter sur moi tout le temps qu'il faudra.